Oui, vous ne rêvez pas. Vous êtes devant le cratère lunaire qui s'appelle le cratère du Maharal de Prague. Voilà. Voilà, c'est comme ça qu'on commence aujourd'hui. Et vous l'aurez compris, devant ce cratère magnifique, eh bien, nous allons parler aujourd'hui d'un personnage essentiel, central, d'adjectif important pour vous faire comprendre l'importance du personnage. On va parler aujourd'hui du Maharal de Prague. Les amis, attachez vos ceintures, parce que dans l'histoire de la Kabbalah, mais Bichlal, du judaïsme, le Maharal de Prague, c'est une masterpiece. Et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc déjà, rien que le fait qu'il y ait un cratère lunaire à son nom, c'est pas les Juifs qui ont appelé ça, c'est officiel, dans les données officielles de la Lune. Il y a un cratère qui s'appelle Yehuda Loeb. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il y a un cratère lunaire au nom du Maharal de Prague? Alors les amis, j'enlève mon cratère magnifique et on peut commencer maintenant à rentrer dans le vif du sujet. Alors, tout d'abord, on va tout de suite lever le voile sur quelque chose qui est très 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 bizarre. Qu'est-ce que c'est que ce nom, Maharal? Je vous rappelle quand même que le Maharal s'appelle Rabbi Yehuda ben Rabbi Betzalel. Ok ? C'est ça le nom officiel. Le vrai nom du Maharal de Prague, c'est Rabbi Yehuda ben Rabbi Betzalel. Pourquoi on en est venu à l'appeler Maharal ? Alors, Mahar, ça veut dire Moreno Harav, Betzalel. Mais pourquoi il y a le Lamed ? On aurait dû l'appeler Mahari. Moreno Harav, Rabbi Yehuda. Aval Lama Maharal. Et bien simplement parce que Yehuda en goyite, ça fait lion, arié. Yehuda, c'est la tribu de Judée. Enfin, la tribu de Yehuda, c'est le lion de Judée. Donc, lion, c'est l'œuvre en praguien. Et donc, eh bien, Rabbi Yehuda et Rabbi Betzalel, on s'est habitué à l'appeler Rabbi Loeb, Léo, Lion. Ok ? Et donc, le Lamed de Maharal, c'est pour le lion de Yehuda. D'accord ? Bon, ça, c'était juste une petite anecdote, histoire que vous sachiez pourquoi ça s'appelle Maharal et pas Mahari, ou quel rapport avec le Lamed dans l'histoire. Ça a l'air ? Donc, Rabbi Yehuda et Rabbi Betzalel, tout d'abord, on va essayer de comprendre quelle est son époque. Et là, j'ai envie de dire que peut-être plus le Maharal que n'importe qui, si on veut comprendre son enseignement et ce qu'il va apporter au monde et au judaïsme, eh bien, on doit comprendre l'époque dans laquelle vit le Maharal. Tout d'abord, il naît en 1512, il va mourir en 1609. Donc, ça veut dire que vous avez compris, le Maharal vit 97 ans. C'est quelque chose d'énorme pour l'époque. D'accord ? Ça, c'est déjà, ça mérite de le souligner. Et il vit surtout donc dans une époque incroyable. Le Maharal de Prague a des correspondances avec le Shlach Kadosh qu'on a étudié la semaine dernière, avec le Ramak, Rabbi Moshe Cordovero. C'est-à-dire qu'on est dans cette période-là des Mekoubalei Tzfat. C'est Yesh'ela. C'est pas évident. Est-ce que le Maharal a vu les Kitvé ou les enseignements du Hari ou pas ? C'est lo baro. Zélo Barour, alors qu'avec le Ramak, on sait que c'est sûr, et avec le Shla, on sait que c'est sûr. Les deux, eux, ils ont eu des contacts avec le Hari. Est-ce que le Maharal, il a été en contact avec le Hari? On ne sait pas. Quoi qu'il en soit, donc le Maharal de Prague, c'est quelqu'un qui va avoir une influence énorme. Quelqu'un qui va avoir une influence énorme, on va commencer à rentrer un petit peu dans les pratimes de sa vie, et je vous ai dit tout à l'heure que si on ne comprend pas son époque, on ne peut pas comprendre son enseignement. Le Maharal de Prague vit au début donc du XVIe siècle. Il va passer tout le XVIe siècle, il mourra au début du XVIIe, mais le XVIe siècle, c'est le début de la Renaissance. Nous sommes donc dans la génération qui se reconstruit au niveau du peuple juif du Girush Sfarad. On se reconstruit de l'expulsion des Juifs d'Espagne. Et d'un autre côté, dans le monde, C'est un renouveau de la pensée, un renouveau de la curiosité, un renouveau de la sagesse qu'on appelle tout simplement la Renaissance. Le Maharal donc vit à une époque où les gens sont extrêmement en recherche de sagesse. Et en plus de ça, Prague est la ville qui est au centre de toutes les réflexions intellectuelles. C'est-à-dire qu'il vit non seulement dans une époque où on veut tout apprendre, mais en plus, il vit à l'endroit où tout le monde vient apprendre. Besaider ? Donc, quand on parle du Maharal de Prague, eh bien, on va comprendre tout de suite qu'il va avoir une influence au niveau mondial et pas seulement au niveau juif. D'accord ? Atke Descartes, je vous montre ici une autre petite image. Voilà, dans 2 secondes, Inès Eba. Atke Descartes, que notre Maharal de Prague, hop là, Iné. Ce que vous voyez ici, ben non, c'est pas ça que je voulais vous montrer. Tu vois bien. Excusez-moi. Voilà. C'est pas du tout ça. Voilà. Ah, ce que vous voyez ici sur votre gauche, c'est la statue du Maharal. Mais où est-ce qu'elle est placée, cette statue du Maharal? Eh bien, elle est tout simplement placée devant l'entrée de la mairie de Prague. Alors, pour être exact, c'est l'ancienne mairie. Parce qu'ils ont fait un nouveau bâtiment plus grand, machin. Et ça, c'est devant l'ancienne mairie de Prague. Bon, c'est pas très grave. Il n'empêche que vous avez donc un bonhomme qui a non seulement un cratère lunaire à son nom, mais qui a également une statue de lui à l'entrée de la mairie. Et je ne te parle pas de la mairie des Juifs, hein. C'est la mairie des Goïms. Donc comment ça se fait qu'il va avoir autant d'influence? Le Maharal va vivre, comme on a dit, dans cette époque où, eh bien, on peut parler de tout et on peut se rencontrer un peu partout. Imaginez-vous que le Maharal va avoir des rencontres improbables 100 ans auparavant. Et même 100 ans après lui, on ne pourra plus avoir ce genre de rencontres. Mais rappelez-vous par exemple que le Maharal va rencontrer un monsieur qui s'appelle Rudolf Hacheny, l'empereur de Prusse, l'empereur d'Allemagne. C'est-à-dire, et pourquoi il le rencontre? Parce que c'est Rudolf qui vient le trouver, parce que la réputation du Maharal est évidente, et donc l'empereur de Prusse veut discuter avec lui de sagesse. Donc, ça dérange personne que l'empereur vienne discuter avec un petit juif à Prague. Il va être très ami, et d'où peut-être notre histoire avec notre cratère, il va être très ami avec un monsieur très important qui s'appelle Tycho Brahe. Tycho Brahe n'est autre que le grand élève d'un monsieur qui s'appelle Copernicus. Copernic. Ouais. La Terre qui arrête d'être au centre de l'univers et qui commence à tourner autour du Soleil. Ok, donc Tycho Brahe, c'est son élève. Et Tycho Brahe, c'est un pote très très profond au Maharal. Pourquoi? Eh bien, parce que Tycho Brahe est venu construire un observatoire spatial à Prague. Et donc, le Maharal vient discuter avec lui et vient observer les étoiles avec lui. Et donc, c'est le Maharal et Tycho Brahe qui vont découvrir ensemble un cratère. Tycho Brahe avait déjà un cratère à son nom, donc il l'a donné au nom de son copain. On ne parle pas du tout d'un rabbin normal, là. Jusqu'à présent, on parlait des rabbins qui étaient au Bet HaMidrash avec les autres rabbins. Le Maharal va avoir un grand élève. Il s'appelle Rabbi David Gans. Rabbi David Gans sera, quant à lui, très proche aussi de l'élève de Tycho Brahe qui s'appelle Johann Kepler. On parle des astronomes les plus émérites du XVIe siècle, si bien que dans la littérature d'astronomie, le Maharal est considéré comme astronome. Rabbi David Gans va écrire un livre. Alors, je n'ai même pas encore parlé des livres du Maharal et je vous parle déjà des livres de son élève. Mais simplement, il a écrit un livre qui s'appelle Tzemach David, mais ce livre a été écrit par ordre du Maharal. Et c'est quoi ce livre ? C'est un livre d'histoire, pas un livre de Torah. Il a dit, il faut que tu écrives un livre d'histoire du peuple juif depuis la création du monde jusqu'à aujourd'hui. Et donc, nous avons le livre Tzemach David, qui raconte l'histoire du peuple juif de la création du monde jusqu'à aujourd'hui. Enfin, jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à l'époque du Maharal. C'est-à-dire ? Donc, vous avez quelqu'un qui est complètement impliqué dans toute la réalité de son époque. Est-ce que le Maharal va écrire des bouquins ? Alors, vous vous rappelez qu'on a parlé du Hari qui a bossé pendant un an et demi entre ses 36 ans et ses 38 ans. Le Maharal va écrire son premier livre très jeune. Son premier livre s'appelle Gour Arié. Gour Arié, c'est un livre en... Attends, je regarde dans ma bibliothèque le nombre d'exemplaires qui m'ont mis du Gour Arié. Voilà, 5 tomes. 5 tomes du Gour Arié qui n'est autre qu'un pérouche sur le pérouche de Rashi. Mais c'est un écrit de jeunesse. Le Maharal, c'est son premier bouquin. Il l'écrit quand il est jeune. Il l'écrit quand il a 56 ans. Ah bah oui. Ah bah oui, parce que le Maharal, c'est pas le genre à écrire des bouquins avant d'être bien posé. L'écrasante majorité de ses livres, il va les écrire après ses 75 ans. Ce qui va peut-être expliquer aussi que il y avait tout un programme de livres à écrire et qu'il n'a pas réussi à tous les écrire. Mais pourquoi il a attendu autant de temps ? Parce que, comment te dire, il est plus intelligent que moi, tu vois. Moi, je commence à écrire un livre, je connais rien. Mais le Maharal, il a attendu d'être bien en place, 75 ans, et là, il s'est dit, bon, je vais commencer à écrire. Bon, deux secondes. Ça veut dire quoi ? Je vais commencer à écrire. Le Maharal écrit énormément. Mais il n'écrit pas parce que ça lui vient comme ça. Le Maharal est quelqu'un d'extrêmement structuré et donc il a un programme dans l'écriture de ses livres. Le programme est le suivant. Il y a dans les livres du Maharal les 6 et les autres. C'est-à-dire qu'il y a les 6 livres qui sont la masterpiece de la Mishnah du Maharal de Prague, qui sont l'essentiel de sa Torah. Et puis après, il y a les autres livres autour qui répondent à des problématiques. Mais quels sont les 6 livres qu'il va écrire ? Et puis d'abord, pourquoi il décide d'en écrire 6 ? Alors, c'est un des trucs qu'on va tout de suite dire sur le Maharal. Torah ta misparim. Le Maharal est quelqu'un qui va être énormément porté sur Torah ta misparim. Alors, pas en mode gematria, mais en mode les nombres veulent dire quelque chose. Pas qu'ils ont une valeur numérique. Non, les nombres eux-mêmes ont une signification. On peut voir peut-être une influence de Pythagore dans la Chokhma du Maharal. Mais en tout cas, le Maharal donc va mettre le chiffre 6 comme étant un point de base de son enseignement. Pourquoi le chiffre 6 ? Eh bien, tout simplement parce que notre réalité est formée de 6 points. Pour déterminer la place d'un objet, de quelque chose dans notre réalité, tu as besoin de 6 points. À droite, à gauche, en haut, en bas, devant, derrière. Donc, pour avoir la position de quelque chose dans l'espace, tu as besoin de 6 coordonnées. En d'autres termes, pour le Maharal, et là, on peut tout de suite dévier sur l'un des grands messages du Maharal, c'est la notion de Emtsa. La notion de merkaz, de emtsa ba Maharal, c'est une notion fondamentale. Que toute chose ne peut être comprise que lorsqu'elle est replacée dans la centralité de sa réalité par rapport à l'expression de l'infini qui est reliée aux 6 points de... Vous avez tout compris. D'accord, vous avez tout compris. Si je vous le dis en hébreu, ça va pas être plus facile. Parce que nous dit le Maharal que à Emtsa ou à Nivdal, כי הוא הקשור אל האינסוף, אבל האינסוף הוא בעצמו נקשר בסופיותו שבתוך המציאות של האמצע, ולכן הוא נמצא בכל הכיוונים של השישה של האמצע של הנבדל. Oui, le Maharal, comme tout personnage de son époque, parle un langage. Et le langage du Maharal, il faut l'apprendre. Donc quand tu lis les livres du Maharal, faut pas t'étonner que tu comprends pas. C'est juste qu'il y a une façon de s'exprimer qui était la façon de s'exprimer il y a 400 ans. D'accord. D'ailleurs, entre parenthèses, je me permets de dire que le Maharal n'avait pas sa langue dans sa poche, ni à l'écrit, ni à l'oral. C'est-à-dire que quand il y allait. On a retrouvé un des livres du Maharal qui s'appelle Drashot à Maharal. On a retrouvé plusieurs de ces Drashot. Et entre autres, on a retrouvé une des Drashot de Shabbat à Gadol. Les rabbins, ils ont l'habitude de faire une Drasha, Shabbat à Gadol. Mais je vous excuse. Je vous excuse. Pas de problème. Je ne sais pas pourquoi, mais je vous excuse. En tout cas, on a retrouvé une des Drashot du Maharal de Shabbat à Gadol. Et il y a des gens qui se sont amusés à la lire à vitesse normale et ils se sont rendus compte qu'elle durait 4 heures. 4 heures de Drasha, Shabbat à Gadol, ça calme. D'autant plus que les deux premières pages de la Drasha sont là pour expliquer pourquoi il faut se taire pendant la Drasha. C'est pas mal. C'est-à-dire, Bekitsour, le Maharal avait donc un projet. Un projet d'écrire 6 livres. Pourquoi 6 livres? On a dit le 6, mais de manière plus simple. Parce que nous dit le Maharal, il y a un verset dans Divrei Hayamim qui nous dit « Lecha Hashem Agedula, Ve'agevura, Ve'atiferet, Ve'anetzar, Ve'ahod, Kichol Bashamayim Uba'aretz. » Zotomeret, nous dit le Maharal, pour comprendre le dévoilement divin, on a besoin de 6. Gedula, Gevura, Tiferet, Hod, Netzar, Hod, Shamaim Var. Ok? Donc de là, les 6 livres du Maharal de Prague, etc. C'est quoi ces livres? Et est-ce qu'on les a aujourd'hui? Eh bien, la vérité, sur les 6 livres qui sont l'essentiel, Zelo Keneged Ayesod. On va voir Keneged Mazé. Ok? Donc, c'est quoi ces 6 livres? Malheureusement, eh bien, nous n'avons pas les 6. Ne sont arrivés chez nous que 3 des 6. On sait que le premier, il l'a écrit, mais on ne sait pas où il est. Les 2 derniers, ça fait que Gadol, s'il a réussi à les écrire ou pas, ou s'il est mort avant. C'est quoi ces livres? Alors, Keneged Agedula, ok, le Maharal va écrire un livre qui s'appelle Sefer HaGedoula. Et Sefer HaGedoula traite d'un sujet qui s'appelle Shabbat. Shabbat de Briyat HaOlam. Ok? Le problème, c'est qu'on n'a pas ce livre. Malas. Mais on sait qu'il l'a écrit parce qu'il en parle dans l'introduction de son deuxième livre. D'accord? Le deuxième livre, Sefer HaGevurot. Celui-là, on l'a. Il s'appelle Gvurot Hashem chez la Maharal de Prague. Et ce livre-là, Gvurot Hashem, parle de la fête de Pessah. Et son sujet principal, c'est Metziut HaNes. La réalité du miracle dans ce monde. Donc ce livre-là, évidemment, on l'a. Ensuite, nous avons le livre qui s'appelle Tiferet. Le Hashem Agedula va Gevura va Tiferet. Nous dit la Gemara va Tiferet Zematan Torah. Donc le livre de Tiferet Israël, Keneged Chag Shavuot, par rapport à la fête de Shavuot, qui nous parle de la valeur de la Torah. Nous l'avons ce livre évidemment. Ensuite, nous avons la dimension de Netzar. Et Keneged Netzar, nous avons un livre qui s'appelle Netzar Israël, qui est par rapport à Tisha B'Av. puisque le livre de Netzach Israël nous parle de l'éternité du peuple juif et donc de la relation entre la galoute et la Géoula. Ok ? Je fais une parenthèse après le... Bon, non, moi, je vous dirai ça après. Les deux autres livres qui manquent, c'est le livre Keneged à Hod. C'était un livre qui devait traiter de la fête de Sukkot et parler du Beth Amikdash. Et enfin, Shamaim Vaharetz, c'était un livre qui devait parler de Rosh Hashanah Yom Kippourim, Keneged à Olam Haba. Ok, mais ces deux derniers livres, on ne les a pas, c'est sûr, et il semblerait qu'il n'a pas eu le temps de les écrire. Maintenant, juste, je reviens à mon Sefer Netzach Israël. Parce que vous aurez compris que donc, si tu veux comprendre l'essentiel du propos du Maharal de Prague, il faut étudier la triplette Vorot Hashem, Tiferet Israël, Netzach Israël. C'est-à-dire, c'est la base de la base du Maharal. Ah, non, en fait, c'est pas vrai ce que je viens de dire. C'est pas la base de la base, c'est l'essentiel de l'essentiel. Mais c'est vrai que si tu veux commencer le Maharal, peut-être qu'il y a des livres plus faciles à commencer que Gvurot, Tiferet et Netzach. Mais bon, c'est-à-dire, Netivot Olam, c'est plus facile dans le langage et la façon dont il écrit à commencer par ce livre-là plutôt que de commencer par Gvurot, Tiferet et Netzach. Mais bon, ce sont les trois livres principaux de la Mishnah du Maharal de Prague. Pour l'anecdote, le livre Netzach Israël a été évidemment écrit pour les Juifs, hein, pas de problème. Il n'a pas écrit pour le monde entier, il a écrit pour nous, il a écrit en hébreu. Mais une partie de Netzach Israël a été traduite en latin. Encore une fois, parce qu'on est à une époque où on s'intéresse de tout ce qui peut être écrit par des sages. Le Maharal est considéré comme un grand sage, donc, même chez les Goïm. Donc, on va le traduire en latin. Et donc, une partie du Netzach Israël a été traduite en latin. Et cette partie-là, donc, qui parle, ça parle de quoi, Netzach Israël ? Ça parle de l'influence du divin dans l'histoire. Galout Vegeoula, la dialectique de l'histoire. Et que l'histoire a un sens. Et qu'on n'est pas, comme ça, jeté en plein milieu de rien. Eh bien, comme ça va être traduit en latin, eh bien, il y a des sages, pas juifs, qui vont lire. Et le premier qui va réussir à lire Netzach Israël en latin, c'est un monsieur qui s'appelle Giovanni Vico. C'est un philosophe italien. Et Giovanni Vico va être le premier philosophe à écrire un livre en latin sur la dialectique de l'histoire. Juste après avoir lu le Maharal. Giovanni Vico va avoir un élève qui va faire de la dialectique de l'histoire son cheval de bataille. Cet élève s'appelle Friedrich Hegel, le philosophe allemand Hegel, qui fait de la dialectique tout son travail. Hegel va avoir un élève qui va faire de la dialectique de l'histoire pas seulement une réalité idéale spirituelle, mais il veut la mettre en pratique pour réussir à amener à l'idéal de l'histoire par un messianisme prolétaire qui va réussir à renverser la pyramide de l'humanité, réussissant ainsi à avoir la révolution prolétaire qui amènera un équilibre de l'histoire. Cet élève s'appelle Karl Marx, qui lui-même est un descendant direct du Maharal de Prague. En gros, tout reste dans la famille. Et si déjà on parle de famille, le Maharal est issu d'une famille Oho, puisque le Maharal de Prague est un direct descendant de père en fils de Rabbeinu Haï Gaon. Or, Rabbeinu Haï Gaon est un descendant direct de David HaMelech. Entre Rabbeinu Haï et le Maharal, il y a Rashi aussi, dans la Shoshelet. Donc, ça veut dire que le Maharal est un descendant direct de David HaMelech, en passant par Rabbeinu Haï et par Rashi, que donc Karl Marx est aussi un descendant de David Ameller. Bon, c'est pas grave. Combien de générations entre le Maharal et Karl Marx? Ben, c'est pas compliqué, il y a à peu près 300 ans entre les deux. Donc, si on admet qu'une génération, c'est, je sais pas, 80 ans, ben, il y a 4 générations entre les deux. C'est ça? C'est-à-dire que Giovanni Vico, c'est déjà une génération et demie après le Maharal. On est dans les années 1680, quelque chose comme ça. Après, on va avoir Hegel qui va arriver. Après, on va avoir Karl Marx qui va arriver. Bekitso. Comment connaît-on l'arbre généalogique? Ben parce que le Maharal, il avait un arbre généalogique. Point. Tout simplement. Il y a des familles pour qui c'est important de savoir d'où ils viennent et donc qui se gardent des arbres généalogiques. Certains d'autres, c'est moins important. C'est leur problème. Hein? Bekitsour, donc le Maharal de Prague, c'est une famille assez énorme. Entre parenthèses, il y a un autre personnage entre le Maharal et Karl Marx qui est quand même un petit peu plus important, qui est un descendant direct du Maharal, qui s'appelle Rabbeinu Shneor Zalman de Ladi, à Admour HaZaken. Ce qui va faire que bah, le Rabbi de Lubavitch, Rabbi Menachem Mendel Schneerson, est lui aussi un descendant du Maharal, et donc un descendant de David Ameller, ce qui va amener les Chassidé Chabad à penser à tort que c'est lui le Mashiach. Attends, on va dans l'ordre. Et effectivement, l'un des grands descendants aujourd'hui actuels de cette dynastie fantastique, eh bien, c'est le Rav Uri Amos Cherki. Je ne sais pas si vous connaissez. Alors, le Rav Cherki, il descend de Rashi, mais est-ce qu'il descend du Maharal? Parce que je crois qu'il y a un truc de la mer, au truc. Faut demander au Rav tout à l'heure. Vous pouvez lui poser la question. Mais peut-être que le Rav Cherki, c'est le Mashiach. On ne sait pas. Pas savoir. Peut-être que demain, il rentre en politique et qu'il devient élu et il devient Premier ministre et il fait tout ce que le Mashiach doit faire. Il n'est pas Ashkenaz. Si, du côté de sa mère, il y a de l'Ashkenaz. La grand-mère du Rav, elle était à Auschwitz. Bekitsour, les amis, ne vous inquiétez pas. Zemishpachot, Baruch Hashem. Quoi qu'il en soit, moi, mes ancêtres étaient marchands et vendeurs de poissons. On peut pas tout avoir. Hein. Je porte le nom Fison, qui en fait a été la francisation de Fish and Zone, qui veut dire poisson et fils. Donc je devais avoir des ancêtres ou pêcheurs ou marchands de poissons. Écoute, il n'y a pas de sous-métier. C'est-à-dire, quoi qu'il en soit, on revient au Maharal. Et donc notre Maharal de Prague à Botaï va avoir une influence énorme. Énorme, on a compris. Alors, au-delà de ces livres-là qui sont la masterpiece du Maharal de Prague, eh bien, il va avoir également d'autres bouquins qui sont tout aussi importants, mais... Descendant de Yonah, ouais. Ouais, c'est ça. Tu dis poisson et fils, en fait, ça vient de celui qui a été vomi par le poisson. Nous, Cheyez la Brioute. Cheyez la Brioute. En tout cas, il y a donc d'autres livres également du Maharal de Prague. C'est quoi ces autres livres du Maharal qui vont avoir une importance capitale? Eh bien, il va d'abord écrire un livre qui n'était pas dans, enfin, deux livres qui n'étaient pas dans le programme initial, mais si déjà, un livre sur Hanouka et un livre sur Purim. En fait, les livres de Hanouka et Purim sont un approfondissement de Netzach Israël. Le livre de Hanouka s'appelle Ner Mitzvah, la bougie de la Mitzvah, et le livre de Purim s'appelle Torah Or. Ok ? Dans le livre de Purim, d'ailleurs, dans Torah Or, le Maharal va dire quelque chose qui a fait sursauter énormément de gens, puisqu'il a dit qu'il n'y avait pas dans Purim, dans le jour de Purim, il n'y a aucune Kedusha. Et c'est très étonnant, parce qu'en fait, le concept linguistique de Kedusha Taguf, c'est un concept qui apparaîtra plus tard. C'est-à-dire qu'on ne parle pas à l'époque du Maharal de Kedusha Taguf. Pas qu'il ne pense pas qu'il y a, mais ce n'est pas comme ça qu'on le dit. Donc c'est pour ça qu'il dit « En ba yom hazeh Kedusha klal ». Mais il va parler d'autre chose, il parle de « Oroth ». C'est-à-dire, c'est juste, encore une fois, il faut apprendre le langage. Le Maharal va écrire également deux livres de moussard, deux livres de morale, que sont d'un côté Netivot Olam et un autre livre qui s'appelle Derech Chaim. D'après le Rav Ashkenazi Manitou, Derech Chaim, c'est l'essentiel de la Torah du Maharal de Prague. C'est son commentaire sur Pirkei Avot. Ok ? Mais le Maharal va être également un grand, grand, grand combattant pour la Torah chez Baal Peh. Et particulièrement pour les Haggadot du Talmud. Et c'est pour ça qu'il va écrire deux livres pour défendre les Haggadot du Talmud et donc défendre les Chachamim de l'époque. Il y en a un qui s'appelle Chidushé Haggadot et l'autre s'appelle Be'er Agola. Le livre Be'er Agola du Maharal est fantastique, est une réponse à un autre rabbin. Il y a un rabbin à l'époque du Maharal qui habite en Italie qui s'appelle Rabbeinu Azaria de Rossi. Rabbeinu Azaria de Rossi. Donc, comment il s'appelle en hébreu? Rabbeinu Azaria Mea Adumim. De Rossi. De Rossi, ça veut dire du rouge. Donc, Rabbi Azaria Mea Adumim. Ça ne veut pas dire qu'il venait de Mahalé Adumim. C'est-à-dire? Donc, Rabbi Azaria de Rossi, eh bien, est le premier rabbin qui va avoir un regard académique sur les Haggadot de Chazal. Et son livre va être extrêmement dévoyé, à tel point que le Maharal va dire que tu ne peux lire le livre de Rabbi Avadia de Rossi que si tu as un permis écrit d'un Rav, que tu peux le lire. Maintenant, pourquoi? C'est quoi le problème? Rabbi Azaria de Rossi, par exemple, il va te dire que lorsque les Chachamim ils disent que Jérusalem est au centre du monde, c'est parce qu'ils ne savaient pas qu'il y avait les États-Unis. S'ils avaient su qu'il y avait les États-Unis, ils n'auraient pas dit ça. Maintenant, le Maharal, lui, il vient te dire, mais aucun rapport, parce que les Chachamim ne parlent pas de géographie quand ils te disent que Jérusalem est au centre du monde. Mais il parle de, au niveau de la valeur. Donc, vous voyez, c'est un petit peu le ping-pong qu'il va faire dans son livre Be'er Agola. J'arrête pas de vous parler du Maharal, de sa littérature, mais le Maharal est un grand bonhomme. Comment on sait qu'un rabbin, c'est un grand? Comment on sait qu'un rabbin, c'est un grand? Eh bien, c'est parce que sa Torah devient essentielle à un moment donné. Et là, on va dire quelque chose qui est assez surprenant. Le Maharal est mort en 1609. C'est il y a 400 ans quand même. Pendant 400 ans, allez, 300, non, c'est pas vrai. Pendant 350 ans, c'est ça, jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, personne, et je dis bien personne, n'étudiait le Maharal. Quand je dis personne, évidemment que non. Il y avait des tzadikim, des yechides goula qui étudiaient le Maharal. Mais c'était absolument pas une Torah qui était à la mode, qui était dévoilée, qui était connue. Et c'est pas comme le Ramchal, on étudiera plus tard, où on n'avait pas les livres. Ils ont été redécouverts plus tard. Là, on les avait, les livres. C'est juste que personne n'étudiait le Maharal. Ça veut dire que son enseignement, c'était pas le moment. Mais, à l'aube de la Deuxième Guerre mondiale et surtout après, il va y avoir une itoreirout, la Maharal. Comment ça commence? Eh bien, ça commence tout d'abord avec Rabbi Moshe, Yaakov Moshe Charlap, l'élève du Rav Kook, qui va commencer à enseigner le Maharal à Jérusalem. Au même moment, Mamash, et sans concertation aucune, pourquoi? Parce qu'il a senti que c'était le moment. Au même moment, il y a un autre rabbin qui sent que c'est le moment. Il s'appelle Rabbi Eliyahu Dessler. En Angleterre, tout d'un coup, on se met à enseigner le Maharal. Lama? A priori, on ne sait pas. Au même moment, aux États-Unis, il y a un autre élève du Rav Kook qui s'appelle Rabbeinu Yitzhak Utner, qui va enseigner le Maharal. Au même moment, Mamash, il y a un rabbin en France qui s'appelle Rabbi Yaakov Gordin, qui va enseigner le Maharal à une poignée d'élèves, dont Manitou. C'est-à-dire qu'on voit que tout d'un coup, les rabbins enseignent le Maharal de Prague. Et aujourd'hui, il n'y a aucune maison de personnage qui a une bibliothèque toranite où il n'y a pas les livres du Maharal. Et il n'y a pas une communauté où on ne va pas enseigner de temps en temps le Maharal. C'est-à-dire qu'on voit vraiment que c'est une Torah qui attendait de pouvoir être dévoilée. Tout simplement. Et ça y est, on est dans le moment de Torah Tamaharal Mipral. Attends, deux secondes. On garde le meilleur pour la fin. Donc attends, le golem, ça va venir. Surtout que j'ai pas envie de vous dire trop vite que c'est pas vrai. Donc, calmons-nous. Quoi qu'il en soit, le Maharal, c'est quoi cette Torah ? Puisqu'on a dit que le Maharal avait une Torah très particulière et que ça y est, c'était le moment. Donc de quoi ça parle ? C'est quoi cette Torah du Maharal ? Alors, c'est intéressant ce que tu dis, Jacob. Je rebondis là-dessus. C'est vraiment... Alors, ça aussi, c'est la preuve de la grandeur du Maharal. C'est que on se réfère du Maharal justement dans les deux mondes. C'est-à-dire que pour le monde chassidique, tout vient du Maharal. Les chassidim, ils pensent que les idéaux portés par le Magid de Mezritch et le Baal Shem Tov, ça vient du Maharal. Et dans la chassidoute de Chabad, par exemple, si vous regardez ici le livre « L'Ikutei Amarim Tanya », que je vous envoie des petits chapitres comme ça tous les mercredis matins, qu'est-ce qu'on va nous dire dans le Tanya, dans la première page, enfin l'introduction si vous voulez du Tar Davar, on dit que le Tanya, il est écrit en suivant les histoires et les écrits. Aimez-vous ça, ça la Sipurim ve Aketuvim. A Sipurim ze Amagid Mimezrich ve Aketuvim ze Amaral Miprag. Donc chez les Chassidim, on se revendique du Maharal. Chez les Litaïm, le Gaon de Vilna se revendique également du Maharal. Pourquoi ? Parce que le Maharal a mis comme centralité de son message la centralité de l'étude de la Torah. Donc c'est vraiment bizarre parce que le Maharal, justement, alors tu vas me dire, il y a peut-être des gens qui ne l'étudient pas, mais dans le monde Litaï, le Maharal, c'est un must aussi. C'est juste que dans le monde Litaï, tout ce qui n'est pas... le chasse ou un commentaire du chasse, alors on n'étudie pas. Si le Maharal avait écrit un livre entier qui s'appelle Ridouché à Maharal à la chasse, alors il l'étudierait tout le temps. Mais on a des petits ridouchim du chasse du Maharal, mais c'est pas mis dans un livre officiel. Itzur, donc le Maharal a des points très importants de sa Torah. Quels sont les points essentiels de la Torah du Maharal de Prague? On a parlé tout à l'heure du Emtsa, la notion de Emtsa. On a parlé également de la notion de dialectique, c'est-à-dire de thèse, antithèse, synthèse, qu'on peut déjà trouver dans la Torah du Maharal de Prague. Il y a deux mots qui reviennent très souvent dans le Maharal, c'est la notion de Chomer Vetsura. Alors évidemment, ce n'est pas le Maharal qui va l'inventer, ce sont des notions qui viennent directement de la philosophie aristotélicienne. Et on peut dire que le Maharal est celui qui a fait pencher la balance. Il y avait un combat depuis 300-400 ans, qui avait commencé en Espagne, entre les philosophes et les Mekoubalim. Puisque à partir du XIe siècle en Espagne, la philosophie aristotélicienne est devenue très très puissante, eh bien, il y avait un combat incessant entre les philosophes et les Mekoubalim, entre le Rambam et le Ramban. Le Maharal de Prague met tout le monde d'accord et fait pencher la balance vers les Mekoubalim. et la Kabbalah a gagné dans le peuple juif. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de rabbanim philosophim comme le Rambam, et au contraire, se dévoilent encore plus et plus les rabbanim de Torah ta Kabbalah. Donc, lorsque le Maharal prend les termes de Chomer Vetsura qui viennent de Aristote, lui, il les change complètement. Puisque pour lui, la notion de Chomer, c'est le dévoilement Baolam Hazeh, Vetsura, c'est Amitat Atzmo Shel Kol Davar. C'est l'essence. Mais c'est l'air. Donc, on va parler maintenant de manière erkit, de valeur. Le Maharal va nous parler également beaucoup de l'univers, mais en tant pas que astronomie, en tant que Olam Tarton, Olam Emtsai, ve Olam Elyon. Que l'Olam Tarton, c'est le monde dans lequel nous évoluons. Olam Emtsai, Olam Shalom, ve Olam Elyon, c'est Olam Shel HaMalachim. C'est-à-dire, ça ressemble à ce qu'on va pouvoir trouver dans le Hari, avec les Arba Olamot. Mais en fait, ça ressemble aux trois Olamot. C'est comme si le Maharal ne voulait pas parler de Olam Atzilut. Et c'est vrai que dans la Kabbalah, très souvent, on va mettre Atzilut de manière séparée des trois autres dimensions. C'est-à-dire de Bria, Asiya, Bria, Yetzira, Asiya. Bekitsur, donc ça, c'est un autre point très important dans la Torah du Maharal. La relation entre Israël et Agoïm. La relation entre Israël et Agoïm, c'est quelque chose qui est très important dans le Maharal, et c'est pour ça qu'il va développer la réalité de Arba Amalchuyot. Du point de vue du Maharal de Prague, il ne peut pas y avoir autre chose que Arba Malchuyot. Pourquoi ? Eh bien parce que dans notre monde, il y a Arba Kivunim, qui sont eh bien, les points centraux de notre réalité, comme il y a dans le Gan Eden, où le fleuve sortait que des les Arba Rashim. Et donc pour lui, les Arba Malchuyot, c'est quelque chose de très très important, de central. On va pouvoir le retrouver dans le livre Netzach Israël. La notion de Teva. La notion de Teva est une notion qui est extrêmement importante aux yeux et au regard du Maharal de Prague, parce qu'il voit dans la Teva la possibilité de dévoiler Akadosh Baruch Hu. Parce que le Maharal va être celui qui va lancer le Rayon que l'Etatar Panoui Miné. En fait, l'Etatar Panoui Miné, que rien n'est vide de sa présence, ça va être repris et reformulé par le Baal Shem Tov, mais on retrouve déjà la présence divine qui est omniprésente dans la Torah du Maharal de Prague. Donc vous voyez que c'est un rabbin qui en a sous le coude. Résultat des courses, il n'a jamais été le rabbin de Prague. Pourquoi il n'a jamais été le rabbin de Prague ? Parce qu'il était beaucoup trop grand pour être le rabbin de Prague. Et donc il n'arrivait pas à gérer. Il n'arrivait pas à gérer, c'est pas moi le rabbin de Prague, laisse-moi tranquille. C'est-à-dire comme le Gaon de Vilna d'ailleurs, qui ne sera pas le rabbin de Vilna. C'est-à-dire. Et donc maintenant, il faut qu'on arrive à ce qui pendant 350 ans a été le seul truc qui nous rattachait au Maharal. Le seul truc qui nous rattachait au Maharal, c'était quoi ? Eh bien, c'était le golem de Prague. Tov. Rabotai. Vous avez déjà eu de temps en temps des cours du Rav Shmuel Elikan. Le Rav Shmuel Elikan, ah, vous avez aujourd'hui ?
Sur les maladies mentales.
Ah, pourquoi ? Qui est pas là ?
Le Rav Yoel Benarouche.
Eh ben d'accord. Alors, vous n'allez pas l'embêter, vous n'allez pas l'embêter là-dessus, mais le Rav Shmuel Elikan, de sa famille, il va vous raconter qu'un de ses ancêtres est celui qui a commandé l'histoire du golem. Il y a un bouquin qui est écrit à la fin du XVIIIe siècle qui s'appelle Sipurim Yehudim. J'ai plus le nom en tête de cet ancêtre de Rav Shmuel. Il me l'a dit, mais je ne me rappelle plus. Qui avait une imprimerie et tout, et qui était lui-même un descendant du Maharal. Et il écrit un livre, Sipourim Yehudim, et il fait faire une commande à plusieurs rabbins d'histoire. Et il y en a un qui va écrire l'histoire du Maharal et du Golem. C'est une invention de toute pièce. Et c'est une invention de toute pièce qui va super bien marcher. Qui va être traduite. Il y a un rabbin qui va le prendre après au Canada et qui va en faire un truc énorme. Et aujourd'hui, tout le monde parle du Golem de Prague. Je sais que si je dis ça, et qu'il y a des gens qui sont Chabad, pourquoi faire cela? Pourquoi on raconte des histoires? Mais parce qu'on en avait marre d'avoir que des histoires sur les héros des Goïm. Vous voulez avoir aussi un peu des histoires de chez nous? Ça va? Maintenant, chez les Chassidés Chabad, on ne peut pas dire un truc comme ça, parce qu'il y a une histoire qu'on raconte avec le rabbi Amoar Rachab, le cinquième rabbi de Chabad, qui a été un jour à Prague avec son fils quand il était petit. Il avait 7 ans. C'était le rabbi Arayat, mais il avait que 7 ans. Et il raconte qu'ils étaient à Prague et que le rabbi Arayat, donc de 7 ans, a voulu monter dans le grenier de la synagogue du Maharal pour aller voir le golem. Et son père lui a dit « Non, fais pas ça !» Mais il est monté quand même. Et parce qu'il a voulu monter, eh bien, il est tombé de l'échelle et il s'est blessé à la hanche, au pied, et il a boité pendant des années jusqu'à ce que son père et lui prient ensemble, et prient, et finalement, Kadosh Baruch Hu décide de le guérir, et donc il a été guéri. Donc tu vois bien que c'est la preuve qu'il y avait le golem dans le grenier. Et puis, vous savez bien que pendant la Deuxième Guerre mondiale, il y a des nazis qui sont arrivés à Prague, et il y a deux nazis qui sont montés, et on leur a dit de ne pas monter dans le grenier. Et ils sont montés dans le grenier de la synagogue, et ils ne sont jamais revenus. Et moi, j'ai été à Prague avec ma femme et notre dernière fille quand elle était bébé. Et on a été dans la synagogue du Maharal. Et j'ai été prié, c'était Shabbos. D'ailleurs, c'est fantastique, quand tu vas à la synagogue du Maharal Shabbat, il y a un chômer. Il y a un chômer qui parle en hébreu devant l'entrée de la synagogue et il ne te laisse pas rentrer avant de t'avoir posé plein de questions. Mais ce n'est pas pour savoir si tu es un terroriste ou pas. C'est pour savoir si tu viens vraiment prier ou pas. Parce que la synagogue, c'est un musée. Elle est ouverte le Shabbat et les horaires de Tfilot, mais le reste du temps, si tu veux venir, il faut payer. Donc, il y a plein de touristes qui viennent à Prague. Et donc, il y a plein de touristes le samedi qui se baladent dans les rues de Prague, qui veulent rentrer dans la synagogue. Et donc, le mec devant, il me regarde, il me dit « Shalom, shalom, qu'est-ce que tu viens faire ?» Je dis, je voudrais prier. Il dit, ah bon, c'est quoi la paracha? Genre, tu viens prier Shabbat, tu dois savoir quelle est la paracha. Si tu ne sais pas la paracha, tu dégages. Et je lui dis, la paracha. Il me dit, t'es sûr? Je lui dis, ouais. Ah, il me dit, non, tu ne peux pas rentrer alors. Pourquoi je ne peux pas rentrer? Il dit, non, c'est que pour les gens qui prient vraiment. Je dis, j'ai vraiment envie de prier. Et en fait, j'ai bugué pendant 5 minutes. Et après, je me dis, mais oui! C'était la période, justement, entre Pessah et Shavuot, où il y a une paracha d'écart à cause du dernier jour de Yom Tov. Que très souvent, ça arrive comme ça, qu'on est en décalage. Et donc, je dis, mais oui, mais en Khoul, vous lisez autre chose, vous lisez celle-là. Il dit, c'est bon, tu peux rentrer. Donc, je suis rentré. Et puis à la fin de la tefila, je suis sorti et j'ai vu l'échelle qui menait au grenier. Attends, j'arrive pas à tout lire. Attends, deux secondes. Moi aussi, j'ai été à Prague avec le groupe Brit Shalom de Rav Cherki durant notre convention. Et alors, vous êtes monté, vous avez été voir le golem qui est dans le grenier, c'est ça? Et le Rav Cherki lui a marqué la lettre Aleph sur le front, parce que vous comprenez, c'est le golem, c'est le Maharal, il a créé un monstre d'argile et d'eau, et en fait, il lui marquait Emet sur le front, et Emet, comme ça, il pouvait se lever et agir selon le bon vouloir du Maharal, et en fait, c'était pour protéger la communauté des Cosaques et des différents pogroms, et il y en avait marre. Et puis un jour, le Maharal, à chaque fois qu'il voulait l'éteindre, il enlevait la lettre Aleph, et ça devenait Met. C'était plus Emet, c'était juste Met, et donc il redevenait un bloc d'argile. Et puis un jour, il a oublié Shabbos, il a oublié d'y enlever avant Shabbat le Aleph. Et donc, il est parti en freestyle. Et il est parti détruire toute la ville. Et là, le Maharal l'a retrouvé. Il l'a mis dans son grenier. Il lui a enlevé le Aleph. Et il est resté maître pour l'éternité. Et donc, il est encore aujourd'hui dans le grenier de la synagogue du Maharal. Et chas v'shalom qu'on monte dans ce grenier. Parce que celui qui voit le golem, eh bien, prenez une photo. Voilà, vous pouvez maintenant rallumer vos micros et poser vos questions. C'était le Maharal de Prague, un must de chez Must. Et voilà. À vous de jouer.
Alors moi, j'ai une question. Si déjà on invente des héros juifs, on en a des héros juifs, pourquoi inventer un argile, quelque chose de pas humain ?
Tu veux parler, quand tu dis on a des héros juifs, tu dis on a Superman, on a Batman, on a
Rabbi Akiva, on en a quand même.
Mais non, parce que tous ces héros-là, ils ont été inventés par des juifs. Bon, non, tu me parles de qui ? De Rabbi Akiva, de trucs ? Bah, t'as rotsé ! Il m'a écrit une histoire, Makama ! Et puis, je vais te dire, franchement, honnêtement, Benenou, quand tu étudies un peu le Maharal, c'est tellement pas matim au Maharal, le golem. C'est l'osé, quoi. C'est pas toi, ça, Torah. C'est une histoire. Le Maharal était quelqu'un de connu. C'était un personnage haut en couleur. C'était un personnage d'une sagesse incroyable. Donc, on a inventé une histoire 150 ans plus tard. Makara.
Pouvez-vous représenter les dates de sa vie ? Je n'ai pas eu le temps de noter.
1512-1609.
Alors, question de Meira. Meira, votre micro. Meira, votre micro. C'est pareil.
Bonjour, Arav. Qui était le maître du Maharal ?
C'est une très bonne question. Qui était le maître du Maharal de Prague ? Il est le descendant de toute la tradition ashkénaze. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il a étudié chez les derniers des derniers des derniers Tosafot. Enfin, on n'est déjà plus chez les Tosafot. On est déjà vraiment, comment dire ? On est sur les différents rabbins de, par exemple, le Maharal de Rothenburg, par exemple. On va avoir les rabbins de Pologne, par exemple Rabbi Shalom Sachne, mais on ne sait pas vraiment qui était son Rav Mouvak. On n'a pas l'info là-dessus. Enfin, moi, je ne l'ai pas en tout cas.
Mais qui était son contemporain, avec qui il avait des discussions talmudiques ?
Ah non, on a dit, il a beaucoup de discussions, on a dit, avec le Shla Kadosh, avec le Ramak, avec le Réma de Cracovie. Donc, de sa génération, il y en a plein.
Alors, ouais. Question de Yaakov Zerbib. Yaakov, ton micro, toujours pareil.
Ah, excusez-moi de un peu la refort sur l'histoire du golem, mais j'arrive toujours pas à comprendre pourquoi on invente une histoire. Je sais qu'il y a eu des cas où, par exemple, sur Rabbi Ephraim Yannakawa du Maroc, de l'Algérie, qu'on invente, que le peuple, les gens qui ont raconté l'histoire, ça a fait des téléphones arabes, et après, c'est devenu des histoires. Mais là, selon ce que vous dites, c'est quelqu'un qui a inventé l'histoire, qui en a fait un livre et qui a commencé à... J'arrive pas à comprendre le but de faire un tel livre.
Stam.
Parce que selon ce que vous avez dit, il n'y a pas que le Maharal. Sur plusieurs rabbins, ils ont fait ça, sur plusieurs histoires.
Donc tu vois que finalement, c'est quelque chose qui revient souvent. Ouais. Hey, franchement, t'en inventes pas toi aussi des rabbins, des histoires sur les rabbinim pour tes enfants ? Nous,
Arav, il reste
combien d'histoires on a inventées sur le Rav Cherki ? Combien ?
Arav, il reste 2 minutes de questions. Yorévet.
Vous nous avez parlé, Rav, des notions principales, le Maharal, donc Emsa, le Khomer, Tzoran. Vous avez parlé de dialectique aussi. Quel est le terme en hébreu qu'on traduit par dialectique ? Quel terme en hébreu traduit par dialectique ?
En hébreu, on parle de... je ne sais pas s'il y a un terme, on parle de dialectica, gambe hybride. Je ne sais pas s'il y a un terme hébraïque européen. Je ne sais pas.
Arab, une dernière question, Dan Bechavod.
Oui. Bonjour, Rav Fizon. Le Maharal de Prague, il est venu en Eretz Israël et oui, il parlait d'Israël, de la terre d'Israël. Quelle était sa position là-dessus ?
Ah oui, il parle beaucoup de la terre d'Israël. Il n'est pas venu en Eretz Israël. Bon, c'est pas toujours facile de venir en Eretz Israël à cette époque-là. Il n'est pas venu en Eretz Israël. Par contre, on va retrouver la centralité de la terre d'Israël dans le livre du Netzach Israël.
Ok.
Donc oui, pourquoi il n'est pas venu, je ne peux pas te dire.
Alors, disons, il est 10h, Toda Rabba.
Hazak, au revoir.
Toda Rabba. Merci beaucoup.
Bonjour.